Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 872 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple, sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le vignoble des Côtes d'Auvergne. Et bien oui, ça existe, la super chaîne dans l'univers du vin, le Vino Quiz, pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Florence Corbalan, Philippe Forbach, David Cobol et Jacques-Olivier Pespe. Bravo, bonjour à tous les quatre. Bienvenue en ce samedi midi, là. Alors, pour commencer... Cette émission Invino Sud Radio retrouve Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, avec un nouvel invité, Philippe Fézard. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors vous êtes, qu'est-ce que je vous dis, 1893, vous pensez à quoi?
Ah ben c'est le début de l'histoire de la famille Fézard au domaine Chiroulette.
C'est aussi la fondation du Stade Français.
Et c'est aussi la fondation du Stade Français, quoi. À l'époque, on n'était pas de 14e. Florence.
Philippe, vous avez plusieurs talents, ingénieur agricole, œnologue. Vous avez fait un passage chez Tariquet, conseiller technique chez Seguin Moreau, le tonnelier.
Oui.
En 1995, vous décidez de reprendre le domaine Chiroulette, qui est le domaine familial. D'ailleurs, Chiroulette, ça vient de Chiroula. C'est le vin qui souffle sur vos coteaux de la Ténarèse.
Le vin qui souffle, oui, c'est tout ça. À fait. Le vin pyrénéen, oui.
Vous êtes arrivé avec la conviction de faire du très bon vin alors que votre papa a été le pionnier du floc de Gascogne. Alors comment vous est venue cette idée? Vous pensiez déjà qu'il y avait du potentiel?
Une intuition, certainement, et puis une envie d'un jeune ingénieur œnologue. Passé par un stage en Californie aussi où j'avais les yeux qui brillaient sur des Sauvignons blancs, des Chardonnays. En fait, je suis venu au vin par la Californie, c'est paradoxal, j'étais tout jeune, c'était mon premier stage. Et en rentrant, je me suis dit, mais pourquoi pas chez moi, hein, l'Amérique, c'est bien, mais... Et effectivement, bon, ces terrains étaient un peu, ces terroirs étaient un peu en dormance, si j'ose dire. On a gratté et puis c'est parti.
Alors, au niveau du vignoble, vous dites que vous avez deux partitions. Alors, moi, ça me parle parce que ça fait référence à la musique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, alors, en fait, quand j'ai commencé à observer mon vignoble, il n'y a pas de meilleure manière que de vinifier séparément les parcelles, c'est ce qu'on appelle le parcellaire. Mm-hmm. Donc en fait, j'ai commencé à concevoir mon chai, puisqu'on est parti de quasiment rien à l'époque. Hein. Il faut pas l'oublier, c'est un vignoble qui vient de la viticulture des eaux de vie, d'Armagnac, de la chaudière, de la distillation. Donc Uniblanc, Colombard, voilà. Donc il a fallu d'abord créer cette reconversion technique dans les chais. Et en orientant la conception de mon chai vers mon parcellaire viticole, j'ai vu se dessiner des profils de vin en provenance de mes grands types de sol. Voilà. Donc il y a deux partitions qui se sont assez vite... révélés, qui sont les dominantes calcaires, que l'on appelle chez nous les perusquets en patois local, ou les renzines, et puis les argiles fines, plus ou moins profondes, voilà.
D'un côté, les
deux clés d'entrée.
D'un côté la côte d'Aix et de l'autre Terre Blanche, c'est ça?
C'est ça.
Très bien. Alors, vous avez fait un gros, gros travail avec votre ami géologue Pierre Chevalier sur les sols.
Oui.
Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, parce qu'en fait, on les avait sous nos pieds, forcément, mais on ne les connaissait pas, ces sols. Alors, on est parti de zéro, d'une page blanche. Et on a daté, et on est remonté au Miocène. Voilà, plus particulièrement au Burdigalien supérieur, on va dire à peu près un peu plus de 20 millions d'années.
David Cobold, vous qui êtes un grand copain du supérieur aussi.
Oui, non, Philippe, franchement, moi, on se connaît bien, donc on peut être franc. La vigne, elle s'en fiche éperdument de l'âge géologique. Le contenant géologique peut avoir une importance sur le fonctionnement de la vigne, mais l'âge n'en a aucune. Tu me corriges.
Ah, bien sûr. Ouais. Non, mais on a essayé de les comprendre, de savoir d'où venaient ces sols. Effectivement, ils y sont depuis des millions d'années, ils y sont pour l'éternité, donc ça, on n'y peut rien. Hein. Ouais. Si ce n'est que quand on a commencé à les vinifier séparément, on a vu se dessiner des choses, en particulier sur que ce soit au niveau du Sauvignon blanc comme du Gros Mansin, on avait des expressions communes qui transcendaient le cépage finalement. Donc on s'est dit là, ce qui est plus fort que le cépage, forcément, c'est le terroir.
Et vous avez combien de vous avez combien de cépages aujourd'hui? Vous travaillez quel cépage? Surtout le tannat, je crois, hein, qui vous tient à cœur.
Ah, pour les rouges.
Alors, oui, alors, d'abord, si vous voulez bien, sur les blancs, traditionnellement, on a les cépages de distillation, ce que l'on appelle double fin, hein, qui sont l'uni blanc et le colombard. Mais nous avons également le baco, que l'on a réhabilité depuis quelques années, uniquement pour la distillation, et ensuite Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Gros Mansin, Petit Mansin.
Philippe, voilà, il y a un élément important quand un consommateur achète une bouteille de vin, c'est le bouchage, qu'il n'y a pas de problème de goût de bouchon. Vous avez une solution appropriée pour vos vins?
Ah oui, là j'y suis très attaché. Parce que j'ai passé 20 ans de ma vie à vouloir exprimer le terroir, en particulier pour Terre Blanche, cette finesse aromatique, cette pureté, ce côté floral, fruité, pêche de vigne, avec beaucoup de précision. Et combien de fois j'ai tremblé lors de la mise en bouteille, parce que pour moi, une mise en bouteille, c'est comme un accouchement. Enfin, voilà,
et quelle est votre solution alors? Vous travaillez comment?
Ah ben aujourd'hui, ma solution, enfin, depuis longtemps, c'est Diam.
D'accord, très bien. Florence Corbalan, parmi la gamme très large et qualitative de Philippe, vous avez un petit coup de cœur?
Oui, pour un IGP, Côte de Gascogne blanc, qui s'appelle les Terres Blanches 2018, qui est à 7,50 €. C'est la signature blanc sec du domaine, qui vient d'un sol calcaire, justement, on en parlait, à base de Gros Mansin, Sauvignon et un petit peu d'uni blanc, issu de vieilles vignes. Alors, la couleur est très claire, brillante, et avec quelque chose qui saute au nez tout de suite, c'est sa pureté. Il a un nez fin avec des notes d'acacia, c'est très délicat. La bouche est tonique avec quelques fruits comme la pêche sauvage, quelques agrumes. La finale est légèrement saline et moi j'adore ça. C'est un vin cristallin très frais, très agréable, qui ira très bien pour un apéritif ou sur des petits poissons grillés.
Excellent, ça coûte. Combien ça coûte la bonne bouteille?
7,50 €.
Bravo à vous, bravo Philippe, bravo Florence. Une vidéo sur radio, on retrouve Philippe Aubrac, meilleur sommelier du monde, pour nous parler d'un vignoble étonnant, d'une ville étonnante. Alors, quand on pense à Auxerre, évidemment, pour les amateurs de foot, on se dit Jean-Marc Ferreri, Eric Cantona, Basile Boli, Giroud. Mais Philippe, il y a aussi des vignes.
Exactement. Ça s'écrit Auxerre et ça se prononce Auxerre.
Auxerre.
Et les Bourguignons ont toujours eu un problème avec les X.
Auxerre, très bien. Le code d'Auxerre, d'accord.
N'est-ce pas? C'est vrai que
ils ne disent pas sexe, ils disent cesse.
Voilà. D'où la semaine dernière, c'était le cécelle.
Ou le sexuel, ça existe aussi.
Nous sommes dans Lyon, néanmoins, pour résumer. Alors, c'est vrai que voilà. Et quand on passe à Auxerre, effectivement, qui n'est finalement pas très loin de Paris.
Alors, on pense à Auxerre, qu'est-ce qui se passe?
On pense plutôt à des vignobles comme Chablis, par exemple, qui est un petit peu connu dans le coin. Voilà, qui est un grand vignoble avec une vocation à la fois locale, mais aussi extrêmement internationale, parce que c'est une des marques, entre guillemets, qui peut être de temps en temps reprise. Je vois l'air un peu inquisiteur de notre ami Jacques-Olivier Pems, qui se dit que les Américains, notamment, hein, aiment oui, bien, raffolent même de l'écrire absolument sur leur bouteille, donc c'est assez compliqué. On peut aussi évoquer dans cette région l'Irancy, qui a une certaine célébrité, avec son notamment célèbre, même s'il est confidentiel, c'est bon, cépage ça. César. Et bien sûr, l'appellation Saint-Brie, qui est connue pour son Sauvignon. On se demande ce qu'il vient faire là, mais quand on regarde la géographie, on se dit que, tiens, finalement, le Val-de-Loire, sans Serre et Pouilly, n'est pas si loin de ça. Et puis, il y a cette petite appellation, Côte d'Auxerre, effectivement, un peu improbable, mais qui, autour de cette ville, et sur les communes de production qui sont Augy, Saint-Brie de Vigneux, qu'on a cité, Auxerre également, où il y a quelques vignes, Vaux, Champs-sur-Yonne, Ken et Vincelotte, produit effectivement des vins depuis assez longtemps. Et ils sont reconnus appellation contrôlée depuis un certain temps déjà.
Qui était autrefois une très grande région productrice.
Oui, hein. Parce qu'on n'était pas très loin de Paris finalement.
Voilà, ça montait la bassin, Lyon.
Et c'était facile de faire venir le vin effectivement jusque dans la capitale. On a produit des vins blancs, des vins rouges et des vins rosés. Les blancs sont élaborés avec le chardonnay. C'est pas très, très classique comme cépage. C'est vraiment le cépage de cette grande région bourguignonne. Les rouges et le rosé sont élaborés avec le pinot noir. Et ça donne des vins par la latitude, par la géologie aussi, qui est plutôt orientée sur le calcaire, des vins qui sont plutôt frais, tendus. Assez tendance aujourd'hui, finalement, parce qu'il y a à la fois la générosité des millésimes que l'on vient de vivre, et je pense notamment, un de mes coups de cœur récents, c'était sur le millésime 2018, des vins d'une gourmandise absolue, mais qui ont une certaine réserve de fraîcheur qui permet d'équilibrer justement extrêmement bien les vins. Le caractère, donc, sur les rouges, est plutôt d'avoir davantage d'extraction que ce qu'on avait avant, dans la tendance actuelle de la plupart des vignerons, donc un peu plus coloré. Des parfums qui évoquent la cerise, la framboise, parfois le cassis aussi. Voilà, ça évoque plutôt le fruit et plutôt le fruit acidulé. Et en bouche, le côté légèrement réglissé est assez présent dans la plupart de ces vins. Et puis c'est surtout la fraîcheur en finale de bouche qui est effectivement des marqueurs particuliers. Côté blanc, on a tendance quand même à les aimer relativement jeunes, même si l'acidité peut leur donner une possibilité d'évoluer dans le temps. On a souvent des arômes de fruits frais qui deviennent légèrement plus secs si on les attend un petit peu quand même, et avec une jolie expression aromatique plutôt donc sur la dimension florale et légèrement acidulée. Ce sont d'excellents vins d'apéritif pour les blancs, magnifiques sur les coquillages,
un peu dans l'esprit
des Chablis.
C'est pas trop cher, quoi.
C'est pas trop cher, c'est à peu près autour d'une dizaine d'euros la plupart du temps. Les blancs donc sont à boire relativement tôt, même si on peut s'amuser à les garder. Les rouges sont... Alors ça dépend des millésimes, hein. J'ai cité 2018, franchement, aujourd'hui, si vous ouvrez une bouteille 2018, vous faites vraiment plaisir, avec modération comme il convient, mais enfin, c'est très accessible justement, à la fois en prix et en style de vin. Ce sont des vins qui vont très bien avec tout ce qui est petite nourriture, les fameuses finger food qu'on a mis aujourd'hui.
Quelques vignerons,
petites planches, etc. Et puis on peut, oui, trinquer avec quelques jolis vignerons. Pascal Bouchard, par exemple, qui fait des très jolis vins. Le Domaine des Remparts, à Saint-Brie-de-Vigneux, qui fait aussi d'ailleurs des sauvignons très intéressants. Guazeau, qui est un Jean-Hugues et Guilhem, ils sont plusieurs Guazeaux sur le secteur, et qui sont un peu les vedettes un peu de la région. La maison Simone Fèvre, il y a quelques vignerons de Chablis qui font également ces vins-là. Et le domaine Sorin, pour ne pas l'oublier, qui s'appelle le domaine du maître de poste.
Merci beaucoup Philippe Aubrac, merci à tous. On se retrouve dans un instant en paravin du caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Florence Corbalan et le Vino Quiz.
Je vous rappelle le principe, donc chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question de la semaine dernière était: que vend Thibault Lamarque avec sa marque Castali? Des fontaines à champagne? Réponse A. Des fontaines à vinaigre? Réponse B. Des fontaines à eau? Réponse C. La bonne réponse était la réponse C, bien sûr. Voici la question de ce week-end. De quelle belle province vient le domaine Chiroulette? Réponse A de Gascogne, réponse B de Bretagne, réponse C de Rome antique. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur site invinoradio.fr, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Florence Corbalan. Une autre radio retrouve Jacques Liepes, CEO d'iVisor et puis professeur Wine Business à l'Université de Colombie-Britannique ainsi qu'à l'Université d'Adélaïde. On parle sur plein de chaînes aujourd'hui ?
On parle sur plein de chaînes, on parle d'une entreprise qui s'appelle Dartès. Quand on parle du vin et de son commerce, de sa vente, on parle souvent d'étiquette, du prix, du lieu de vente. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent de parler, qui prend une place de plus en plus importante, c'est l'acheminement, le transport. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est le parent pauvre de la filière. Alors c'est quand même le transport, il ne faut pas l'oublier, qui a assuré le succès mondial de la filière et des vins de Bordeaux, mais pas que, il y a plusieurs siècles. Pourquoi le transport est important? Notamment parce que, un, le vigneron veut s'assurer que son vin arrive à destination dans de bonnes conditions préservation, il en va de l'intégrité de son produit. Et c'est important parce que le consommateur veut évidemment acheter un vin qui n'a pas été altéré et de plus en plus veut un vin qui lui parvient, notamment s'il a commandé online, en temps et en heure. Cette équation, c'est le métier donc du groupe d'Arthès qui vient de fêter ses 100 années d'entreprise familiale et qui possède donc une société, une filiale d'Arthès, aujourd'hui le spécialiste de la supply chain du vin.
Alors la supply chain, Jacques-Olivier, un éclairage ?
La supply chain, on pourrait résumer cela, c'est la gestion du flux d'un bien tout au long de la chaîne de valeur. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé sur ces 20 dernières années. Pourquoi ? Parce que ça participe de manière active à ce que l'on appelle l'expérience client. Vous savez, l'ensemble des choses, des déterminants qui se passent liés à l'acte d'achat qui fait que vous êtes plus ou moins satisfait de votre expérience.
Et donc l'entreprise, le groupe d'Arthès s'occupe de ça ?
Alors, l'entreprise qui appartient à la famille Tesson, groupe Tesson, c'est une entreprise qui est née du regroupement de 4 opérateurs en 2010, qui est un peu moribond, et c'est donc ce groupe vendéen, Tesson, qui a piloté ce regroupement. C'est une entreprise qui faisait quelques millions de chiffres d'affaires, qui est devenue sous la houlette de Frédéric Lanthéry, son directeur, leader français de la logistique et du conditionnement des vins et des spiritueux. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80 millions de bouteilles expédiées par an, un peu partout dans le monde, 10 hectares d'entrepôts et des clients, des propriétés, des e-commerçants, des distributeurs, importateurs qui confient la gestion de leurs bouteilles et qui s'enlèvent ainsi les difficultés de gestion des stocks, de conservation, d'acheminement, qui sont essentielles, mais je dois l'avouer, la plupart du temps, mal opérées, selon moi, par les domaines viticoles.
Mal opérées, mal gérées, ça veut dire quoi ça ?
Ben, parce que c'est assez simple, c'est un métier technique. Savoir optimiser la gestion de ses stocks, bouger des palettes, rationaliser les espaces, assurer les bonnes rotations, tout ça, c'est un coût et surtout requiert une forme de technicité. Beaucoup de domaines pensent savoir le faire et souvent, il faut l'avouer, le font de manière assez artisanale. Que dire des livraisons, par exemple, combien d'histoires de vignerons qui prennent leur voiture, chargent le coffre, font la tournée des popotes pour livrer eux-mêmes, c'est bien, c'est sympa.
Il y a un côté sympa quand même.
Oui, c'est sympa. Ils vous disent, moi, ça me permet de garder la relation client. Ok, mais c'est pas très sérieux aujourd'hui. Et vous avez, dans ce genre d'entreprise aussi, si je prends un exemple pour l'illustrer, beaucoup de négociants à Bordeaux qui vendent et achètent des vins entre eux, ce qu'on appelle le marché de place, sans toucher à la marchandise, puisque ces mêmes maisons entreposent toute une partie de leur stock dans l'entreprise d'Arthès. Donc en fait, on a du commerce sans toucher à la marchandise.
Et donc il faut externaliser ces opérations.
Pour un vigneron, soyons clairs, le conditionnement et surtout la logistique, ce n'est pas le cœur de métier. Alors, mon conseil, oui, s'il le peut, il faut privilégier l'organisation. Le domaine va gagner du temps, vous allez gagner l'espace, vous allez optimiser la gestion des flux, vous allez sécuriser vos livraisons. C'est quand même un vrai plus. Et puis, sans compter, un autre avantage, c'est la possibilité de transférer à un tiers la responsabilité et la surveillance de votre stock. Transférer la gestion du risque, c'est quand même, il y a beaucoup d'histoires méconnues, parfois, de stocks qui disparaissent. Et ça, c'est un plus. Et à l'autre bout de la chaîne, pour les cavistes ou les restaurants par exemple, pouvoir compter sur une livraison efficace en temps et en heure, c'est quand même assez essentiel. Bref, c'est précieux. Il n'y a pas énormément de prestataires de qualité. D'Arthès en est un, il y en a évidemment d'autres. Mais c'est justement la qualité des services parfaitement adaptés aux subtilités du vin qui leur a permis de prendre cette position de leader sur un métier aujourd'hui porteur.
Et alors, donc ça coûte combien ? Et puis ça s'adresse à quel type de vigneron ?
Alors, à qui ça s'adresse ? Évidemment, c'est difficile parce qu'en fonction du type du vin, du prix de la bouteille, des équipements, aménagements existants à la propriété, etc., beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Mais pour vous donner un exemple, les prix ont baissé et on peut estimer que pour un domaine de 10 hectares, qui ferait grosso modo 50-60 000 bouteilles par an, on aurait un prix à la bouteille pour l'habillage et le stockage de l'ordre de 30 cents par bouteille. Donc vous voyez, c'est relativement accessible. C'est aujourd'hui un métier compliqué et c'est un peu un conseil que je donne car d'une manière générale, les domaines viticoles ont intérêt à se concentrer au maximum sur leur cœur de métier, la production du vin, bien entendu, mais de plus en plus aussi la vente. Et pour le reste, je pense qu'il y a beaucoup de gains dans la sous-traitance.
Merci beaucoup, Jacques-Olivier. Une vidéo sur Radio, on retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Vous êtes un gros batou, vous, hein ? Vous êtes un gros batou. Parlez de souris aujourd'hui.
Je vais chasser le souris. On va chasser la souris. Alors, c'est un confrère québécois, Marc-André Gagnon, qui a attiré mon attention sur cette affaire, que j'avais constaté sans l'identifier. Donc, il avait écrit un papier dans un blog que je partage avec 4 collègues qui s'appellent assez logiquement les 5 du vin. Et on écrit chacun un jour de la semaine, pendant la semaine. Et de temps en temps, le week-end, on donne à un invité une page à remplir le samedi ou le dimanche. Donc, il a écrit sur une souris dans le vin. Donc, ça a attiré mon attention parce qu'il y avait une très jolie photo d'une souris perchée sur le col d'une bouteille ouverte. Donc, je dis, bon, c'est drôle, c'est rigolo. Mais au fait, l'affaire est très sérieuse. Alors, c'est quoi cette affaire-là ? Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'un goût de souris ? Moi, j'ai quelques manuels d'œnologie assez anciennes. J'ai feuilleté et j'ai trouvé ce goût de souris décrit. Et c'est quelque chose qui a disparu pendant très longtemps et est en train de revenir, paraît-il.
Ça, c'est pas une très bonne nouvelle, ça.
C'est pas une très bonne nouvelle et c'est dû à quelque chose assez clair, enfin un double effet, à la fois le réchauffement climatique qui produit des pH plus bas, donc des acidités, pardon, plus haut, donc des acidités plus bas, et en même temps un abaissement des taux de sulfite rajoutés au vin.
D'accord. Ça, c'est une tendance, c'est une tendance.
C'est une tendance, et je dirais que cette tendance a été exacerbée à l'extrême par la mode des vins sans sulfite rajouté. Là, on a vraiment un vrai danger, et c'est effectivement pas par hasard si dans les vins dits nature, je goûte effectivement non seulement des Brettanomys qui donnent des odeurs non pas de souris mais de cheval, c'est pas la même taille, ça pue, tandis que le goût de souris est beaucoup plus difficile à cerner puisqu'on le sent pas au nez, on le sent en bouche, parce qu'il faut de la chaleur pour le dégager. Il faut que le pH monte. Donc on peut l'engendrer en frottant le vin entre ses mains, je l'ai expérimenté.
Bon, c'est ce qu'on ne fait pas tous les jours ça au restaurant. Quoi.
Alors non, mais en bouche, vous le sentez parce que le palais, la cavité buccale chauffe le vin et là, vous le sentez en rétrofaction et ça donne un arrière-goût métallique, long et très désagréable. Alors parfois, c'est décrit comme de la peau de saucisse, comme du papier de riz, enfin il y a différents descripteurs et la souris, ça ne donne pas très envie. Donc c'est un phénomène qui est en accélération notoire en ce moment et du coup, beaucoup d'unités de recherche se mettent à rechercher la cause et surtout la guérison. Donc je pense que la guérison s'est en partie quand même remontée un peu à des niveaux raisonnables les doses de sulfite, parce que le sulfite est un inhibiteur. Alors ça donne, c'est à la fois causé par des Brettanomys et par des bactéries lactiques. Donc on sait que le sulfite tue les bactéries.
Oui.
C'est un des avantages de ce produit. Donc il ne faut pas lâcher le grappe, c'est le cas de le dire, sur cette affaire-là.
Ni la souris d'agneau.
On a de plus en plus de goût de souris dans les vins et ce n'est pas franchement agréable. Il faut faire attention, il ne faut pas aller à l'aveugle. Aussi, il y a l'hygiène qui est en cause. Si on n'a pas une hygiène absolument impeccable dans le chai avec des filtrations stériles, ce n'est pas la peine de baisser les doses de sulfite. Si on baisse la dose de sulfite, il faut une filtration stérile. Ça me paraît absolument
clair. Philippe Aubrac, une réaction à cette souris de M. Kobold ?
Oui, oui.
Miaou.
C'est assez particulier d'aller la chercher au fond de la bouche.
Moi, je croque pas souvent les souris, je
t'assure. Imaginez ça vers midi et demi et 13h. Là,
oui, là, c'est le moment.
David, non, mais c'est vrai que c'est un souci, enfin, toutes ces déviances aromatiques.
Ouais. Il y a un collègue allemand, un chroniqueur qui s'appelle Simon Wolf, a affirmé que 20% des vins dégustés à un salon de vin nature en Berlin en 2000, l'année dernière, étaient défectueux.
C'est énorme,
de
David. C'est énorme.
Moi, je constate à peu près la même chose.
Et ça concerne les blancs, les rouges, les rosés,
ça concerne les deux. Or que les Brettanomys, c'est plutôt les rouges. Mais le goût de souris, ça peut être dans les blancs parce que c'est les bactéries. Voilà. Et dans les pays chauds, c'est plus prévalent.
Dans les pays chauds.
Dans les pays chauds, oui. Et des années chaudes, puisque c'est lié quand même au degré, au pH plutôt élevé, donc les acidités basses. Plus on a l'acidité basse, plus on a des tendances.
Ah oui.
Et moins en sulfite, plus il y a des tendances. Ça ne veut pas dire que tous les vins sans sulfite ont un goût de souris. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il y a un danger si on ne prend pas d'autres précautions. Et notamment les filtrations stériles et une hygiène vinaire absolument impeccable.
Florence, oui, un petit commentaire sur les souris, les hamsters, ce que vous voulez. Quoi.
C'est... Je connais ce défaut. C'est métallique.
Oui, c'est métallique.
C'est ça, métallique. Ouais.
L'impression, David, pour la qualifier, c'est ça, c'est le métallique.
C'est en bouche. Alors, il faut savoir qu'on est tous différents au niveau de la perception des odeurs et des saveurs. Donc, on estime qu'il y a 20 à 30% des gens qui ne le détectent pas.
Ah, d'accord.
Les seuils de perception sont différents.
Oui, les seuils de perception sont différents. Et même les zones de captage dans le bulbe olfactif n'ont pas la même forme et captent pas la même chose. Moi, je le capte et ça donne ce goût très métallique et franchement déplaisant en fin de bouche.
Mais Philippe Aubrac,
C'est pas très
non, c'est pas très sexy, c'est pas top,
hein. Non, je pensais à Iron Man là avec
et par rapport au goût de bouchon,
on va
David,
appeler ça souris man.
On peut le confondre avec un goût de bouchon ou pas?
Non.
Sous l'étiquette de bouchon, on ne confond tout ce pas bon.
Non, parce que le goût de bouchon, vous le sentez au nez, Alain. Or que là, vous le sentez pas au nez, vous le détectez en bouche, ou bien vous le sentez après l'avoir chauffé si vous le mettez sous le nez.
C'est plus pernicieux.
Alors, le goût, et en plus, c'est pas le même niveau d'odeur. Le goût de bouchon, c'est plutôt une odeur de moisi très fort, vraiment très, très déplaisant. Le problème du goût de bouchon, c'est le degré d'intensité. Un goût de bouchon faible qui se révèle à l'aération et pas tout de suite nécessairement, mais qui se développe et qui ne va pas s'en aller. Le goût de souris est là dès le départ.
Dès le départ. Et
est-ce Philippe que c'est un goût de souris blanche ou de souris grise? Parce que
c'est un bouchon, ça veut passer. On dit d'un vin qui a un goût de souris, forcément.
Une souris verte.
Si un vin a un goût de souris, plus un goût d'écureuil, plus un goût de bouchon, on est mal barré.
Et ça, David, ce n'est pas la faute du caviste, ce n'est pas la faute de la distribution.
Non, c'est la faute du vinificateur.
Voilà, donc au départ, la problématique, il y a ça. Et on risque d'avoir d'autres problèmes dans les temps,
j'en
dans
sais
les
rien.
À venir, qui
j'en
pourra
sais
arriver
rien,
selon
mais
vous, pas.
En tout cas, oui, puisque les bactéries, ce sont des choses vivantes. Si on ne les tue pas ou si on ne les enlève pas par infiltration,
Eh ben,
elles peuvent créer des dégâts.
Merci beaucoup, David Cobold. Merci également à vous, Florence Corbalan, Philippe Forbach, Jacques-Olivier Pespe. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas le caviste, fondé en 1822. Nous parlerons d'un salon formidable à Paris. Nous irons à Pauillac. On parlera de films sur le vin avec le festival Enovideo. Bref, 100% bonheur. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.